Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Comment devient-on une gameuse ? Et comment redevient-on une gameuse si jamais la vie nous éloigne un temps de cette passion qui nous unit toutes et tous ici ? La question peut sembler étrange puisque la pratique même du jeu vidéo n'a, en théorie, rien de genré. Et pourtant, les joueuses le savent bien, leur parcours est différent du parcours des hommes. Et on ne parle pas bien sûr de skill ou de type de jeu spécifique, mais de tout ce qui entoure le fait même de jouer, notamment dans le rapport aux autres. C'est ce que la chercheuse Jessica Benoni-Soler, maîtresse de conférence en sociologie des usages du numérique à l'Université de Toulouse, appelle les épreuves et tensions de genre en terrain vidéoludique. C'est ce dont nous allons parler avec elle pendant l'entretien qui suit, le premier depuis 2 mois dans Silence en Joue. Ouais, on a été un peu pris ces derniers temps, mais pas d'inquiétude, ce format revient à un rythme plus régulier. Et j'en ai fini avec cette intro. Silence en Joue, Erwan Cario, bonjour. Donc j'ai le plaisir de recevoir la chercheuse Jessica Benoni-Soler dans Silence en Joue pour cet entretien de février 2023. Et donc on va parler de ta recherche, de tes recherches, de tes sujets de recherche que tu as présentés notamment en septembre 2019 pour ta thèse. Bonjour Jessica déjà.
Bonjour. Merci de me recevoir.
Mais de rien, et j'aime bien lire les titres de thèse, c'est une de mes passions. Je rigole, mais en même temps, ça va permettre de poser un peu les termes du débat. Être et redevenir avec le « re » entre parenthèses, être et redevenir une gameuse de jeux vidéo, trajectoire, épreuve et tension de genre en terrain vidéoludique. Je cite aussi, parce que finalement ça évoque une grosse partie de cette thèse, un chapitre que tu as écrit pour l'ouvrage collectif « Jeux vidéo et adolescence » paru en 2019. Et là, c'était de « Age of Empires à League of Legends, trajectoire et socialisation vidéoludique des gameuses de 4 à 20 ans ». Donc on va s'intéresser à comment on est et comment on devient une gameuse. Et j'ai envie de commencer par une question très large, trop large peut-être, je ne sais pas. Mais pourquoi s'être attaqué à ce sujet très précis et en même temps qui n'a pas été tant que ça traité ?
Bah, tu as répondu à la question suivante. Non, je plaisante. Qui n'a pas du tout été traité. Moi, je pars de 2010. Oh là là, mon Dieu, de dire ça, c'est horrible. Je pars de 2010, mon intérêt pour le sujet, en mémoire. Et c'est pas simplement mon intérêt pour le sujet qui a primé, c'est aussi l'état de la recherche en sciences sociales sur les jeux vidéo. À l'époque, il y avait des recherches sur les jeux vidéo, mais qui étaient centrées, je le dis, hein, mais il n'y a pas que moi qui le dis, sur finalement les joueurs et les joueuses ne sont pas, tous les joueurs ne sont pas des gens qui sont dans l'addiction, des gens qui sont malades, ils ne sont pas que des adolescents. Mais la recherche était vraiment centrée sur ça, mais ce qui s'explique aussi par des questions de priorité, tout simplement. C'est vrai qu'à l'époque, les jeux vidéo étaient encore très stigmatisés. C'est toujours le cas, mais de manière moins forte quand même. Donc à l'époque, une pratique qui était très, très stigmatisée, et les chercheurs, essentiellement des hommes, se sont penchés sur l'urgence de la recherche à l'époque, c'est-à-dire de prouver que c'était une pratique sérieuse, entre guillemets, une pratique passionnante, intéressante, et que les joueurs étaient des personnes adultes, n'étaient pas des personnes malades. Et c'était ça un peu l'actualité de la recherche, montrer que les jeux vidéo étaient un sujet sérieux. Donc dans tout ça, moi j'étais sûre que je voulais bosser sur les jeux vidéo, Je voulais faire de la recherche là-dessus, donc je suis allée bêtement à la bibliothèque et j'ai lu tous les bouquins qui parlaient de jeux vidéo, peu importe la discipline. Je n'avais pas trop de vie à l'époque. Et j'ai lu tout ça et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais apporter moi? On est en 2010, hein. Qu'est-ce que je pourrais apporter moi à tout ça? Et puis je me suis rendu compte en fait que les ouvrages dans la recherche en sciences sociales ne parlaient uniquement que des hommes. Donc les joueurs étaient des hommes adultes, entre 20 et 45 ans en gros. Et les femmes, on en parlait, mais souvent au détour d'une phrase. Oui, il y a des femmes qui jouent, mais elles sont minoritaires, donc on va pas trop en parler. C'est pas l'urgence, en fait. On va passer à autre chose. Et je trouvais que c'était un petit peu dérangeant, dans la mesure où je me doutais que j'étais pas la seule femme sur Terre à jouer aux jeux vidéo. Donc oui, breaking news, hein, je joue aux jeux vidéo, tout le monde s'en doute. Je joue et j'ai joué. Et c'est parti de là, en fait, de l'absence des femmes dans la recherche française, parce qu'après, je me suis rendu compte que outre-Atlantique, le constat n'était pas le même. Mais j'avais lu qu'en français, hein, pour mon mémoire. Et je suis partie de là, de dire, bon, il y a des femmes qui existent, il y a des femmes qui jouent, je crois. Donc, on va essayer de creuser le sujet. Et j'ai, voilà, je me suis lancée là-dessus parce que, par un manque de représentativité, tout simplement, dans la recherche. Et en voulant apporter quelque chose en plus, quoi.
D'accord. On va un peu parcourir le résultat de tes recherches. On précise quand même que c'est une thèse qui est une recherche qui a été longue, 7 ans, 7 ans de recherche. On reviendra un peu sur tes observations et un peu le protocole d'observation parce que tu es allé à la rencontre d'un échantillon, on va dire, de gameuses. Mais tu commences ta thèse en parlant du personnage de Max. Qui est Max?
Alors, Max et Maxine, en reprenant l'accent de la série, c'est un des personnages de la série Stranger Things, qui apparaît dans la saison 2 de mémoire, hein, si je me souviens bien, qui est une jeune fille rousse. C'est très important parce que je le suis aussi, nous la volonté d'identification. Non, pour pas continuer sur la blague, c'est vraiment un personnage intéressant parce que c'est elle est présentée comme une joueuse de jeux vidéo. C'est sa fonction principale là, dans la saison 2. C'est pas simplement une joueuse de jeux vidéo, c'est une très bonne joueuse de jeux vidéo qui bat le record de la salle d'arcade locale. Ça se passe dans les années 80. Et je sais plus le jeu en question, c'est Dig Dug, je crois. Elle bat le record de un des personnages principaux de la série, qui est Dustin. Et elle va être au centre de l'intrigue parce que justement, il y a tout un mystère autour de qui bat ce record. Et les personnages de la série se rendent compte que des jeunes garçons, que c'est une fille, et ils y croient pas au début, ils croient pas que c'est elle qui a battu le record et tout. Donc ils vont la suivre, ils pourraient être sûrs que c'est elle qui a battu le record, ils vont se renseigner sur son prénom, ils vont découvrir qu'elle s'appelle Maxine, donc Max, etc. En plus elle fait du skate, donc vraiment, c'est une fille, c'est une extraterrestre, hein, ils n'en reviennent pas. Alors pourquoi avoir utilisé le personnage de Max? C'était vraiment une épiphanie. Il n'y en a pas beaucoup dans la recherche. Quand on fait de la recherche, on est toujours accro à ces moments-là de mais oui, c'est ça, mais oui, j'ai trouvé, mais oui, quoi. Et je me souviens, je regardais la saison 2, j'étais en pleine rédaction de certains chapitres. Et c'était vraiment, ça fut vraiment comme une apparition, quoi, quand j'ai vu Maxine et quand j'ai vu l'intrigue de l'épisode, qu'il l'a suivi, qu'il y en a un qui tombe amoureux immédiatement d'elle, évidemment, hein, voilà, parce que sinon ça marche pas. Je me suis dit, mais ça, en fait, en voyant ce personnage, j'ai vu mes enquêtés, j'ai vu leur adolescence de tous les récits que j'avais récoltés. Et je me suis dit, mais oui, c'est quand même l'archétype de toute la socialisation, toute l'enfance, tous les résultats que j'avais autour de ça. Et il faut que j'utilise cette scène, hein, des scènes de cet épisode pour introduction, parce que cet épisode met en scène quasiment tous mes résultats autour de l'enfance. Donc, bon, j'étais un peu vexée, hein, mais je me suis dit que c'était une super intro. Et puis, c'est quand même Stranger Things, c'est quand même une série qui est partagée par tous les geeks. En général, je pense que c'est une des références quand même. C'est une série, c'est comme un paquet de M&M's, quoi.
C'est ça.
Elle est géniale, cette série, ouais. Et voilà, c'est parce que c'était l'illustration de tous mes résultats autour de l'enfance.
Et au-delà, on voit aussi que de ce personnage de Max, tout ce qu'elle doit faire, entre autres sauver le monde,
entre autres,
pour être acceptée dans le groupe masculin, en fait. Et prouver ses compétences, notamment, bon, sauver le monde, évidemment, mais prouver ses compétences en jeu vidéo, prouver que c'est elle, prouver qu'elle peut. Encore, et c'est là où... c'est ce que tu as dit, et puis ça va revenir dans ce qu'on va dire ensuite, mais c'est les épreuves. C'est ce que tu as appelé le bizutage de genre.
C'est ça. Elle va passer une série d'épreuves, parce que de toute façon, elle est considérée comme hors norme, dès le départ. C'est pas une jeune fille classique. Elle est considérée comme hors norme, puisqu'elle est bonne aux jeux vidéo, et qu'elle fait du skate. C'est quand même les deux, les deux alliés. Le skate, c'est quand même une pratique aussi qui est dominée par les hommes. Et elle va passer une série d'épreuves, et c'est ce qui est intéressant aussi dans la saison 2. Et j'avais, à la fin de l'introduction, parce que quand j'ai écrit, il n'y avait pas la saison 3, je crois, j'avais émis des hypothèses sur ce que Max allait devenir, et je me suis pas trompée. Bon, je sais que j'ai des compétences de voyance, quand on est sociologue, on est un peu voyant, de toute façon.
C'est bien
mais
connu.
Malheureusement, oui, voilà. Malheureusement, je me suis pas trompée, et malgré toutes ces épreuves, elle a sauvé le monde, elle se met en couple avec, entre guillemets, parce que c'est des pré-ados, elle se met en couple avec un des protagonistes de la série. Et fatalement, elle devient amie aussi avec Eleven, qui est le personnage central de la série. Eleven lui en fait baver énormément aussi. Il n'y a pas que le groupe de garçons qui lui fait passer des épreuves. Eleven ne veut pas l'avoir dans le groupe. Elle se méfie. Elle se dit, oh, une autre fille dans le groupe, ça va me faire de la concurrence. Et ça, on le retrouve aussi avec les jeux vidéo. Et elle finit par arrêter de jouer aux jeux vidéo pour préférer aller au supermarché, s'acheter des vêtements, et on retrouve les normes classiques de genre, les stéréotypes qui commencent à arriver, et l'impossibilité finalement de résister à ça, tellement c'est fort et tellement elle a pas le choix pour adhérer et pour devenir l'adolescente et la jeune femme après qu'elle sera, quoi.
Il y a un passage dans ta thèse qui renvoie à cette image et cette symbolique représentée par Max. Si on a le temps, on en reviendra à la fin de l'entretien, mais il y a la troisième partie, je crois, de ta thèse, où tu as été en observation dans des LAN parties pour observer justement les gameuses à l'extérieur, en dehors de chez elles. Et y a un moment où tu as dû aller voir une association d'élèves, je crois, dans une école qui organisait une LAN party pour faire valider le fait que tu viennes en observation. Et en fait, de la même façon, t'as rencontré une sorte de bizutage de genre.
Ah, mais tout au long de ma thèse, je raconte cette scène. C'était à l'université. C'était une association étudiante, en fait. C'était à l'université, donc des gens à peu près de mon âge, au final. Hein, j'étais un poil plus âgée qu'eux. Et ces bizutages de genre, c'est... J'appelle ça, je crois, dans ma thèse, une série d'interrogatoires obligatoires. Mais toujours, il y a un interrogatoire à passer pour pouvoir être accepté. Il faut se présenter d'une certaine manière, et il faut sortir les bonnes références, en gros, pour être considérée comme sérieuse, pour être une vraie joueuse. Mais ça vient de plus... C'est pas simplement des méchantes personnes, Enfin, ces gens-là étaient très gentils, C'est pas ça qu'il y a derrière. C'est simplement que, aussi, il y a... on charrie derrière nous, des représentations autour de la figure du chercheur ou de la chercheuse qui font que, quand on est un joueur de jeux vidéo d'un certain niveau, on a peur aussi qu'on vienne dire des choses qui sont négatives sur nous, des choses qui sont pas exactes, et qui sont pas vraiment à la juste mesure de la passion qu'on a. Il y avait ça aussi. Bon, il y avait le fait que je sois une femme, et ça, je l'ai très bien identifié suite à cet épisode-là où on m'a dit « Ah ouais, t'as ces références-là, donc t'es une vraie gameuse. Ok, pardon madame, on va discuter maintenant. Voilà. Voilà, tu nous as prouvé qui tu étais, tu sais jouer aux jeux vidéo, t'as les bonnes références, du coup on te parle. » Mais cet interrogatoire-là, je l'ai subi, parce que c'est fatigant aussi. Et ça, les joueuses de mon échantillon me l'ont dit. On est toutes passées par là, à des degrés plus ou moins différents. Quand on est inconnu, quand on n'est pas quelqu'un de connu qui stream ou que notre nom n'est pas célèbre, on va devoir passer, les joueuses professionnelles, j'imagine, elles sont passées par là, mais maintenant elles ne le sont plus. Mais les anonymes, nous, on passe des séries d'interrogatoires dès lors qu'on rentre dans une discussion. Ça peut être amical, ça peut être dans un contexte de drague, ça peut être au travail. C'est dans tous les contextes possibles et inimaginables. Dès lors qu'on joue aux jeux vidéo, on va devoir justifier nos pratiques et avancer un certain nombre de savoirs, de connaissances, ce qu'ont pas à faire les hommes qui jouent.
D'ailleurs, il y a un côté double aveugle dans cette observation et dans cet interrogatoire que tu as subi, c'est que sur cette enquête sur les LAN, tu travaillais avec un chercheur. Enfin, il y avait un chercheur qui travaillait sur le même sujet. Vous avez signé des articles en commun. Et lui n'a absolument pas eu à subir cet interrogatoire-là, ce même genre d'interrogatoire.
Il y a aussi la double serve dans le sens où c'est moi qui me suis occupée justement de cette entrée sur le terrain, cette approche du terrain, de négocier aussi l'arrivée sur le terrain, tout l'aspect social en fait, c'est moi qui l'ai géré et Johan ne l'a pas fait. Et oui, Johan, si tu m'entends un jour, bonjour. Mais oui, lui, il est juste arrivé sur le terrain en fait.
Ouais.
Je l'ai présenté à sa place, hein, etc. Mais oui, cet interrogatoire a été... J'ai voulu le mettre dans ma thèse parce que je l'ai trouvé assez représentatif de comment moi aussi j'ai négocié ma position de chercheuse, qui n'a pas du tout été évidente du début jusqu'à la fin.
Tu commences sur cette situation, sur cette... Qu'est-ce que c'est d'être une joueuse aujourd'hui, une gameuse? On reviendra sur la définition. Il y en a tellement de choses. Mais il y a une question générale, et c'est un peu la première partie de ton travail, c'est le contexte historique. C'est vrai que les jeux vidéo sont une discipline avec une histoire. Aujourd'hui, le jeu vidéo commercial, industriel, a 50 ans, enfin tout ça, mais remonte bien avant si on prend d'autres personnages qui ont fait cette histoire. Les personnages qui ont fait cette histoire, en tout cas les histoires telles qu'elles sont racontées, sont tous des hommes. Tu cites évidemment les noms les plus connus, l'espèce de triptyque historique de l'histoire des jeux vidéo qui sont Steve Russell qui avait créé Space War en 1962, Nolan Bushnell qui a créé Atari et Ralph Baer qui est à l'origine de l'Odyssée de Magnavox. Et c'est les trois, voilà, c'est les trois grandes figures des débuts du jeu vidéo. Comment se fait-il que les femmes soient totalement. Mais alors là, on parle de totalement, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas des exceptions, il n'y a même pas une Ada Lovelace qui traîne dans un coin et ce genre de choses. Elles sont totalement absentes de la play-histoire, où tu reprends le terme de Florent Gorge. Et donc, voilà, les femmes sont totalement absentes de cette play-histoire.
Totalement. Et je partage ton constat, hein, que j'allais trouver peut-être en fouillant, hein, en regardant les notes de bas de page, je me suis tout fadée. C'était intéressant, hein, mais je suis passée beaucoup de temps à lire tous les ouvrages, même en anglais. Hein, j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas des femmes. Et j'étais vraiment horrifiée de voir que non, jamais il y avait un nom qui ressortait d'une ingénieure qui avait peut-être créé un programme qui avait permis de développer un gros truc après. Non, j'ai pas trouvé, il y en avait pas. Donc, mais cette partie-là, je me suis posé la question de me dire, est-ce que je fais une partie historique dans ma thèse? C'est plus du tout à la mode de faire ça dans les thèses actuellement. Mais je me suis dit que c'était indispensable, hein, qu'il fallait le faire pour montrer à quel point l'histoire était racontée au masculin, mais ça, pas simplement dire ça, comme tu l'as dit, hein, mais plutôt expliquer les coulisses de ça. Pas dire simplement, ben, il n'y a pas de femmes parce qu'elles ne s'intéressaient pas au truc et elles ne voulaient pas faire de jeux vidéo, elles n'ont pas eu l'idée d'en faire et de les créer, de créer les machines, de créer les programmes. Mais simplement, quand tu vois la période historique dans laquelle les premières technologies sont apparues, les femmes n'avaient pas accès au contexte qui ont permis de créer ces technologies-là. Elles n'avaient pas accès à l'université, elles n'avaient pas accès aux filières dans lesquelles étaient ces trois fondateurs, elles n'avaient pas les moyens financiers. Hein. À l'époque, c'est arrivé tard, hein, que les femmes puissent avoir leur compte bancaire, puissent travailler sans l'accord de leur mari, etc. Il faut le rappeler quand même. Hein. Donc, c'est pas non plus un hasard si des femmes ne sont pas vraiment à l'origine des premières technologies vidéoludiques. C'est pas juste que c'était pas leur truc, qu'elles n'étaient pas intéressées. Mes résultats, voilà, ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est que même si elles avaient été intéressées ou qu'elles avaient eu les idées, elles n'auraient pas pu les réaliser, en fait.
Oui.
Elles ne pouvaient pas faire ça.
Et au-delà,
c'est quand même autre chose.
Ouais. Oui, c'est vraiment autre chose. Et au-delà, il y a aussi toujours cette interrogation. Alors, je ne sais pas si tu l'exprimes comme ça dans ta thèse, je ne me souviens plus, mais en tout cas, c'est une interrogation que je me suis faite aussi. C'est même si il y avait eu des femmes, peut-être qu'on les aurait tout simplement rayées de l'histoire et qu'elles seraient introuvables aujourd'hui. Tu parles notamment de c'est des effets connus, notamment dans l'histoire des sciences et l'histoire des technologies. Tu parles de l'effet Mathilda, qui est cette légère tendance quelque peu systémique, de rayer les noms des femmes qui ont participé notamment aux projets de recherche et aux découvertes scientifiques et tout ça.
Oui, tout à fait. D'où l'effet que j'ai nommé l'effet Daniel après, mais j'y reviendrai, hein, Daniel Buttonberry, hein, qui a été totalement effacé de l'histoire des jeux vidéo. Donc j'en ai trouvé une, hein, et qui réunit d'autres types de discrimination, mais on y reviendra. Mais dans les récits aussi des trois fondateurs, là, je pense à Nolan en particulier, je me souviens d'un bouquin, je sais plus lequel, hein, que j'avais lu, et je l'ai pas mis dans ma thèse, mais il insiste sur le fait de, quand, à l'époque où il a créé Atari et qu'il est devenu qui il est devenu, il disait que quand même, tout ce travail qu'il avait pu faire dans son garage et cet aspect acharné, hein, qu'il avait à bidouiller et à bricoler des trucs, il le devait aussi à sa femme. Et ça, c'est un truc qui est totalement passé aux oubliettes, hein, parce que il disait, oui, c'est elle qui gérait le ménage et qui me nourrissait, sinon je me nourrissais pas, en fait, et qui s'occupait de nos enfants. Donc, c'est vrai qu'elle a pas, sa femme n'est pas intervenue directement, hein, dans l'aspect technologique, mais elle a géré toute l'intendance derrière. Sinon, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Et ça, c'est totalement absent, hein, des récits de l'histoire, hein, des jeux vidéo. Hein, c'est cet aspect de social, de care, de gestion de la maison est totalement, totalement évacué de l'histoire, quoi. Et pareil pour Nintendo, qui est une entreprise qui s'est léguée de père en fils, alors qu'à un moment donné, ben, il n'y a eu que des filles dans la lignée, hein, de l'héritage de Nintendo. On n'a pas laissé à ces filles-là la possibilité d'être directrices de Nintendo. Elles auraient pu, et elles avaient de fait le droit dans la filiation. C'était elles qui devaient devenir directrices. Mais non, on a préféré embaucher un ingénieur. Bon, l'ingénieur en question était très très compétent, hein, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais c'était pas lui qui devait être directeur à la base, ouais.
Et
ça aussi, on a tendance à l'oublier.
Bah oui, et il y a, ce truc, tu as évoqué le nom, hein, mais ce truc dont j'ignorais absolument l'existence, qui est un détail dans toute cette histoire, mais qui est tellement représentatif, c'est que il y a un truc, alors je ne sais pas si nos auditrices et nos auditeurs connaissent, mais il y a un Hall of Fame de l'Académie des arts et techniques, si je me souviens bien, américain, qui voilà, chaque année donne une, enfin dit telle personnalité est une personnalité Hall of Fame du jeu vidéo, en fait, où il y a évidemment Shigeru Miyamoto, on retrouve les noms connus, les Sid Meier, les ce genre de choses. Et au moment où tu travaillais dessus, il y avait zéro femme. Zéro femme, mais dans le texte, tel qu'on l'avait, tel que c'était écrit, il y avait zéro femme. Mais en fait, il y en avait une. Et c'est quand même absolument dingue. C'est-à-dire que c'est Daniel Buttonberry, la créatrice du jeu Mule, en 1983. Et en fait, elle est présentée dans cette femme. Je te laisse raconter, mais c'est fou.
Alors ouais, pour les personnes qui écoutent, hein, c'est l'équivalent un petit peu, ce classement, c'est l'équivalent des Molières. C'est pas l'équivalent des Oscars, mais c'est plus les Molières en termes de prestige. On est plus sur quelque chose d'un peu classup, élevé, voilà, avec plus une dimension créative, plus qu'économique, en fait. Et j'ai trouvé ça intéressant, parce que là, derrière, il y a la légitimité, c'est intéressant d'aller voir. Donc, je regarde ce classement et, tic de sociologue, j'épluche tous les noms. Moi, j'aime bien me renseigner sur les gens, j'ai un aspect stalking, forcément, ça fait partie de mon métier. Et je regarde, et là, je me rends compte, en fait, qu'il y a un couac avec une des personnes qui est présentée sous une mauvaise identité, qui est présentée sur une identité masculine, alors que c'est une femme. Et je comprends pas, donc je fais des recherches sur cette personne. Et c'est une femme trans, en fait, hein. D'où le fait qu'elle soit présentée sur sa mauvaise identité. C'est pas du tout un justificatif, elle ne devrait pas, en fait. Elle a fait sa transition, enfin, ils avaient les informations, mais ils ont fait le choix de la présenter sous sa mauvaise identité, en fait. Sous son identité avant transition, ce qui n'est pas du tout normal, et ça ne devrait pas du tout être le cas. Donc, même... Il y a une femme qui est distinguée, qui a fait le jeu Mew, là, qui est un des premiers jeux quand même qui va engendrer après les mondes ouverts, qui va engendrer les MMO, qui fait quand même, enfin, on est sur quelque chose de lourd, quoi. Elle va, c'est pas possible. Elle est présentée hein, sous son identité avant sa transition. Ça n'a, mais j'ai quand j'ai vu ça, mais c'est ça fait partie de ma deuxième épiphanie de thèse hein, après Max. Je me suis dit c'est pas possible. D'où le concept que j'ai créé qui s'appelle l'effet Daniel. Donc dans les jeux vidéo c'est doublé. Hein, c'est vraiment on veut pas distinguer les femmes et en plus quand c'est des femmes trans on va les discriminer et produire de la violence de genre en mettant même une photographie, ça va loin,
Ouais,
hein.
ça va loin,
Ouais.
ouais, c'est absolument, absolument dingue.
Ça va très très loin.
Donc l'effet Daniel dans les jeux vidéo, et là, cette invisibilisation des femmes, les invisibles, c'est aussi c'est quelque chose qu'on va retenir aussi de la lecture de ta thèse. J'ai peur de ne pas y penser, mais ta thèse est accessible en ligne. Donc, si les auditrices ou les auditeurs veulent lire tes travaux, c'est tout à fait possible. On va aller au cœur un peu du sujet, les gameuses de 4 à 20 ans, notamment, l'histoire, leur histoire, comment les trouver. Parce que tu parles que tu es rentrée finalement en filature. Tu as fait une filature des gameuses. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ouais, le terme de filature, c'est en lien avec mon cadre théorique, sociologique un peu chiant, qui est de la sociologie pragmatique. Alors la filature, c'est un peu, bah, ça correspond au terme, hein, c'est un peu le travail de détective, finalement, où on va pas. Parce que dans l'imaginaire, les sociologues font des questionnaires, des sondages, alors que dans la réalité du métier, c'est pas du tout ça, enfin pour la plupart. Moi, j'ai pas fait de questionnaire, où j'en ai fait un petit sur les LAN hein, pour avoir un petit peu de chiffres, mais vraiment. Rien de très passionnant. Mais ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on va voir les gens et on fait des entretiens et des observations. Mais moi, ce que j'ai fait en plus, entre guillemets, c'est que j'ai suivi mes enquêtées. Donc, c'est-à-dire que je passais des journées, voire des soirées entières avec elles, hein, et je les suivais, peu importe l'espace où elles allaient, avec leur consentement. Je tiens toujours à le préciser. Bien évidemment, je n'ai obligé personne, parce que ça peut paraître un peu fou, hein, dit comme ça. Mais j'avais leur accord, et puis au final, ça c'est devenu des contacts assez proches, hein. Je parlerai pas d'amis, mais des gens quand même proches à l'époque. Hein. Et quand elles allaient faire leurs courses, qu'elles interrompaient leur partie pour aller acheter du Coca, ben j'allais avec elles. Hein. Je les suivais. D'où le terme de filature, c'était peu importe les espaces où elles allaient, du moment où elles étaient d'accord, j'allais avec elles.
Et donc, en fait, l'idée aussi, c'est. Alors, c'est un sujet, c'est marrant parce qu'on en avait parlé il y a 18 mois à peu près, enfin, il y a un an et demi dans Silence on joue, quand on avait reçu les chercheurs qui avaient bossé sur la fin du game, le livre. Eux, ils avaient comme ça observé les usages des joueuses et joueurs de jeux vidéo en postant des caméras. On avait parlé de ça, tout ça. Mais toi, tu n'as pas posté de caméra. Tu étais là
Non.
avec aussi, bah, tu as pris le temps de rompre un peu ce mur, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile d'avoir une sociologue sur une chaise à côté qui regarde tes parties de
C'est
League
très
of
bizarre.
Legends. Et tu parles de cet indicateur, peut-être de proximité, d'intimité, où tu deviens peut-être invisible aussi, j'en sais rien, qui est le moment du pyjama, en fait.
Ben surtout chez les femmes, hein. Surtout c'est chez les femmes cis, hein, je tiens à le préciser, j'ai eu que des femmes cisgenres dans mon échantillon. Chez les femmes cis, c'est chez les femmes en général aussi, je pense que pour les femmes trans, c'est un peu le même résultat. C'est on est socialisé, on se construit de manière à présenter toujours une image la plus propre possible de nous, c'est-à-dire jamais les cheveux en bataille, toujours maquillée. J'étais avec un échantillon de femmes qui étaient comme ça, d'une certaine représentation sociale. Les femmes se doivent d'être toujours impeccables, à l'intérieur et à l'extérieur, donc chez elles et à l'extérieur de ce qu'elles renvoient. Et moi, j'avais considéré que c'était quelque chose qui revenait aussi énormément, et ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Une fois que le rapport de confiance était établi, c'est-à-dire que elle m'appelait, elle m'envoyait un texto, elle me recevait quand elle était en pyjama, parce que souvent elle jouait en pyjama. De fait, parce qu'elle jouait en vocal avec les groupes en ligne. J'ai travaillé essentiellement sur les jeux en ligne. Et elle jouait le plus confortablement possible, hein, puisque souvent il n'y avait pas la caméra. La cam était enlevée pour des questions de débit, hein, et de fluidité du réseau. Et elle jouait, et je me rendais compte que bah, les 4 à 6 premiers mois, quand même, hein, ça dure longtemps. Hein. Quand je venais, il y avait une espèce d'effort qui était fait de on va prendre une douche, on va se maquiller et on va s'habiller. Et je considérais que mon terrain était gagné du moment où elle me recevait en pyjama.
C'est... Non, mais oui, en plus, il y a un côté naturel, mais c'est vrai. Est-ce que tu avais anticipé ce genre de validation, finalement, du fait que tu sois rentré dans l'intimité? C'est quelque chose que tu as
Pas
observé,
du tout.
en fait. C'est...
Ouais, c'est quelque chose qui est venu avec mon terrain et que... Ben, le but, quand tu fais de la recherche, c'est de créer des concepts. Bon, moi, j'ai créé des concepts qui me ressemblent, hein, l'effet Daniel et l'effet pyjama. On a les concepts qu'on mérite, hein, quelque part. Mais ouais, je trouve que ce concept-là, il est derrière l'effet rigolo un petit peu du pyjama. Il dénonce aussi quelque chose de la recherche qui est, pour moi, hein, je trouve que c'est dommage, hein, dans la plupart des recherches qu'il y a sur, que ce soit en sociologie, anthropologie, peu importe, hein, ou en infocom, c'est des recherches qui sont, pour moi, qui rentrent pas assez dans l'intime. Mais c'est dur, hein, de faire ça. C'est très dur, hein. Il faut du temps. Hein. Il faut du temps. Ben, je comprends aussi, quoi. Et pour moi, souvent, quand on fait un entretien et qu'on rencontre une personne pour la première fois, avec toi, ça le fait pas parce que je te connais de l'époque de Life et je, voilà, je sais qui tu es. Pour moi, tu fais partie de mon quotidien, donc ça va. Mais pour les autres personnes, t'as des réponses un peu trop lisses. Et moi, je voulais pas ça. Je voulais, j'ai fait la première thèse sur les femmes en France. C'est pas du tout prétentieux de dire ça, c'est la réalité. Et j'avais une sacrée pression avec en sachant ça. Que j'étais, voilà, celle qui allait soutenir un jour, one day, mais j'ai fini par le faire. Et je voulais vraiment avoir les réponses les plus naturelles et sincères possibles, même si c'était jamais totalement le cas. Et gagner cette confiance-là et mettre mon quotidien au service de mes enquêtés,
Le
c'était
résultat,
vraiment pas négociable.
c'est un truc, c'est 7 ans de recherche. Alors, tu donnes les chiffres, mais ça veut rien dire. On sait que ça veut rien dire. Et en même temps, ça veut dire quelque chose. 1736 heures d'observation, 74 entretiens, à ce à quoi il faut ajouter 166 heures d'observation en LAN party. Voilà, c'est quand même assez impressionnant. Une petite question sur ton panel, sur ton groupe de gameuses que tu as sélectionné. Tu as choisi, alors c'est assez marrant parce qu'il y a eu une migration dans les jeux, mais tu as choisi des gameuses majoritairement de World of Warcraft, donc en 2013, en 2011, quand tu as commencé ton observation, et qui, pour beaucoup, ont migré sur League of Legends au cours de tes observations, pendant ces années d'observation. C'est quand même un public. Moi, quand je parle des joueurs ou des joueuses de World of Warcraft et des joueurs et des joueuses de League of Legends, on est vraiment sur du hardcore gaming dans le sens où c'est des jeux qui nécessitent un apprentissage, beaucoup d'apprentissage, qui nécessitent des entraînements, une mise à jour, de pas perdre la main, d'être régulier et en plus de jouer avec un groupe. Donc il y a un investissement. Temporel, social et un investissement en termes d'apprentissage qui est assez énorme. C'est pourquoi cibler cette population et pas prendre les joueuses qui téléchargent des jeux sur Steam ou qui achètent les AAA Sony ou Xbox?
Alors, il y a plusieurs éléments dans la réponse. Je vais prendre au niveau temporel, hein. J'étais la première thèse financée, parce que j'ai été financée pour faire cette recherche, un truc de fou, hein, quand même, financée pour regarder des gens jouer aux jeux vidéo. J'étais la première recherche financée. Donc, pour moi, il y avait des enjeux de légitimité aussi. Je voulais pas contribuer aux stéréotypes avec ma recherche. Je suis revenue sur ça depuis. Hein. Je pense que maintenant je ferai avec plaisir des recherches sur les gameuses qui jouent à des petits jeux entre guillemets, hein, des jeux un peu moins légitimes. Mais il y avait aussi cet enjeu-là de créer la première recherche sur les femmes qui jouent avec des jeux qui sont considérés comme légitimes, pour pas qu'on me réponde ah ben oui, ben facile, là, vous avez travaillé sur des femmes qui jouent un peu, mais c'est pas des vraies joueuses en fait.
Légitime, j'ai juste une petite parenthèse, c'est World of
Ouais.
Warcraft dans la recherche française sur les jeux vidéo, c'est un mème.
Eh oui, je sais. Je sais. Après, un autre élément de réponse, j'ai trouvé les joueuses que j'ai pu trouver, très honnêtement. J'avais cette. Je viens de Toulouse, donc de province. Vous l'aurez entendu à mon accent, même si pour moi, c'est vous qui avez un accent. Bon, bref,
Tout à
c'est un autre
fait.
débat. Et j'ai fait un petit peu avec ce que j'avais. Il y a eu un effet boule de neige j'ai rencontré une première personne qui m'a amené vers d'autres personnes, etc., etc. Parce que moi, j'avais la contrainte de, en mode, je vais pas juste faire un entretien avec vous. je vais faire partie de votre vie. J'avais
Oui.
un peu ça aussi dans ma recherche. Donc double difficulté hein, de se dire voilà, il faut que je trouve des femmes qui jouent, qui ont un temps de jeu significatif que je peux observer, qui n'est pas des temps d'attente sur téléphone, sur transport, sur même si c'est super intéressant aussi à voir. De je peux aller chez elles et je peux les regarder jouer. Et c'est vrai que les jeux en ligne pour ça ont été assez assez fantastiques. Et je rebondis sur l'effet de la filature. Hein. J'ai changé de jeu, ça a posé beaucoup de questions hein, au milieu de ma thèse de me dire ah, mais attends, on va changer de jeu, du coup je vais devoir présenter tous les jeux, mais je vais pas m'en sortir en fait, je vais mourir. Mais non, j'ai eu une très bonne directrice hein, qui m'a dit bah non Jessica, tu voilà, tu suis simplement ton échantillon et tu suis les gens, c'est pas grave, tu vas pas les obliger à réouvrir World of Warcraft alors qu'elles y jouent plus, c'est pas grave. Et voilà, d'où le fait du changement de jeu hein, par rapport à ça. Mais du coup, j'ai oublié ta question, évidemment.
Non, 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 mais c'était le fait d'avoir choisi, mais tu as très bien répondu, d'avoir choisi des profils hardcore gameuses, des profils qui étaient, enfin, en tout cas, avec un type de jeu spécifique.
Mais figure-toi que la majorité des femmes de mon échantillon se définissent en tant que joueuses de jeux vidéo et même pas en tant que gameuses.
Ah oui. Non, mais
Ouais,
c'est.
on
Non,
en est là,
c'est.
hein, et c'est assez représentatif de l'absence de légitimité aussi pour les femmes qui se considèrent, qui vont toujours considérer qu'elles n'ont pas le niveau,
Oui.
qu'elles ne jouent pas assez, qu'elles ne jouent pas assez bien parce que si et ça et si, et qui pour elles ne sont pas légitimes dans ce milieu. Elles se considèrent, même en jouant 6 heures par jour, en tant que joueuses de jeux vidéo.
C'est
Gameuse, c'est
fou.
un terme qui est un peu compliqué pour elles aussi.
Il y a plusieurs passages où on va voir ça en action parce que c'est aussi la force d'une étude sociologique, c'est d'observer l'action, d'observer l'action en train de se faire. Et on va commencer parce que quand tu as rencontré les gameuses de ton échantillon, bah, c'était aussi revenir sur l'enfance, comment on devient une gameuse, comment on commence à jouer. Il y a cette citation et qui illustre beaucoup ce qui va arriver ensuite, c'est de la chercheuse Dominique Pasquier qui l'a écrit en 99, c'est comme les habits trop petits, les jeux vidéo se transmettent en général du frère vers la sœur. C'est ce que tu racontes, on va parler des pères aussi, mais c'est une transmission masculine, le jeu vidéo.
Tout à fait. Alors, au-delà de la figure du père, on pourrait douter, hein, du père qui joue aux jeux vidéo et qui transmet les outils, les consoles, les manettes, hein, le temps de jeu à ses enfants, hein. Mais cette figure de passeur masculin, elle revient, hein, ça peut être la figure de l'oncle, du
Oui.
cousin, aussi d'une rencontre faite à l'école. Hein. D'un groupe de pères, donc d'amis qui va être essentiellement masculin. On retrouve toujours des hommes en fait dans le récit des gameuses sur les premiers temps de jeu. Qui c'est qui m'a initié, qui c'est qui m'a donné envie de jouer aux jeux vidéo, ce sont toujours des hommes, hein, qui soient plus ou moins proches. Et c'est vrai que la figure à qui on pense le plus, c'est le frère ou le père. C'est des choses qui reviennent quand même de manière majoritaire. Mais les oncles et les cousins et les amis sont là aussi.
Avec, alors c'est assez marrant cette récurrence, mais c'est aussi parce que je pense qu'il y a une classe d'âge en particulier dans ton échantillon. C'est Age of Empire ou Civilization, les jeux qui reviennent le plus souvent. Je fais juste une petite parenthèse, c'est assez marrant parce que j'ai reçu la streameuse Ultia en entretien il y a quelques semaines.
Oui, je l'ai
Et
écouté. Oui.
c'était ça. J'ai joué à Age of Empire sur les genoux de mon père. Et donc on était vraiment. C'est fou d'avoir ce sorte de stéréotype chez les gameuses. Il y a comme ça une découverte avec Age of Empire du jeu vidéo. Et entre 4 et 10 ans, pour une grande part. Alors c'est assez amusant. Enfin c'est assez étonnant de voir ça. C'est dans les familles, les gameuses de famille d'une classe moyenne ou supérieure. C'est quelque chose qui se retrouve. C'est en fonction de la classe sociale aussi.
Et oui, c'est ça. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi dans mes données de me poser et de poser cette question des classes sociales qui est un incontournable en sociologie, hein,
Bien
mais
sûr.
qui est très peu abordée par rapport au public des jeux vidéo, parce que maintenant on considère que tout le monde a accès aux jeux vidéo. Et je pense que dans les années 90, c'était pas le cas, et c'est pas encore le cas aujourd'hui. Même si les jeux vidéo sont sur mobile et qu'à peu près tout le monde a un smartphone, pas à peu près tout le monde a un smartphone en fait. Quand on vit au fin fond de l'Ariège, qui est un département qui est pas, proche de chez moi, hein, dans les montagnes, et qu'on n'a pas accès au réseau tout simplement parce qu'il y a encore des zones blanches en France et qu'on a des parents au RSA. on n'a peut-être pas un smartphone à
Ouais.
disposition autant qu'on le voudrait pour jouer. Et c'est ça aussi, c'est important de voir dans les trajectoires des femmes. Et je pense que ce serait important de faire une étude sur classe sociale et jeux vidéo, vraiment approfondie comme j'ai pu faire moi en suivant les trajectoires des gens et regarder les milieux sociaux d'où ils viennent et de voir qu'à un moment donné, il y a des pauses, des arrêts de jeu aussi en lien avec la variable économique. Et il y a aussi de temps de retard, je crois, je dis ça dans ma thèse entre guillemets, hein, dans les générations de consoles, où on a des gameuses qui vont avoir une génération toujours de retard,
Oui.
mais parce qu'elles achètent leur matos d'occasion, en fait.
Bien sûr.
Et qu'elles vont pas
Et
faire le dernier jeu parce qu'elles peuvent pas le faire.
évidemment, ça va presque de soi sur ce qu'on vient de dire, mais il y a une figure, je lis ce que tu écris, une figure apparaît invariablement absente dans les rapports à la culture vidéoludique, les mères.
Très peu de récits sur les mères, moi j'en ai pas trouvé, mais il doit y en avoir hein, des mères qui ont initié aux jeux vidéo. Je crois que ma directrice de thèse me dit que c'était sa mère qui l'avait initié et que mes résultats n'étaient pas bons. Non, je plaisante parce que elle avait une maman qui l'avait initié. Non, mais elle m'a dit fais attention aux nuances, elle avait raison, hein, évidemment. Mais dans l'échantillon que j'ai eu, moi, les mères étaient totalement absentes. Et c'est vrai que dans la littérature, après, j'ai fait ce parallèle-là, elles sont vues comme des personnes qui vont encadrer la pratique. C'est-à-dire qu'ils vont la réguler, tu peux jouer mais tant de temps, qui vont installer des contrôleurs parentaux sur les machines, qui sont OK avec la pratique, mais qui vont avoir peur de, paradoxalement, de l'effet addiction, les effets des jeux vidéo sur mes enfants, à quoi ils vont être exposés. Mais ça, on retombe sur des mécanismes assez classiques de ce sont les femmes qui prennent en charge l'éducation et le bien-être des enfants. En général. Et c'est pour ça qu'elles vont apparaître comme des empêcheuses de tourner en rond, hein, et qu'elles vont réguler le temps de jeu de leurs enfants, ouais.
Ça, on n'a pas évoqué, mais la figure de la femme en tant qu'empêcheuse fait aussi partie de l'histoire des jeux vidéo. Tu as montré aussi dans des publicités, notamment dans des discours, que la figure des femmes dans l'histoire des jeux vidéo était aussi une figure de l'empêcheuse de jouer. C'est ou alors la contrepartie, mais on préfère les jeux vidéo. Enfin voilà, y a un truc comme ça d'objectification et de présence des femmes en négatif. Je précise, enfin je voulais quand même signaler qu'il y avait quand même une figure maternelle dans les jeux vidéo dans ta thèse. C'est une de tes enquêtées qui est elle-même mère, elle est dans la position où elle veut transmettre cette culture de jeux vidéo à sa fille.
Et d'ailleurs, depuis, parce que j'ai soutenu ma thèse il y a 3 ou 4 ans, je crois, depuis j'ai d'autres types de données, parce que je suis toujours en lien avec certaines femmes de mon échantillon. Même moi, je suis devenue mère, du coup, ça crée une autre proximité. J'ai eu le temps de faire un enfant entre-temps. Et c'est un peu ça, quoi, quand on fait de la recherche, c'est difficile.
C'est ça.
Et oui, on peut observer que elles encadrent aussi la pratique dans une volonté de transmettre, mais de pas reproduire les erreurs qu'elles-mêmes elles auraient pu faire, donc c'est-à-dire bien réfléchir à l'âge et au scénario auquel elles vont exposer leur enfant, toujours ce truc de temps, même si elles-mêmes elles sont gameuses, elles ne veulent pas que leur enfant passe trop de temps sur les écrans, elles encadrent la pratique mais en la connaissant, donc ça donne un autre type de résultat et un autre type d'environnement hein, qui fait que c'est beaucoup plus ça se fait de manière beaucoup plus approfondie, sérieuse et moins dans la peur, mais plus dans la compréhension de la pratique. Hein.
Il y a ensuite, évidemment, le passage à l'adolescence, ce moment d'une sérénité absolue
Pour tout le monde, ouais.
pour tout le monde. C'est un passage où nous n'avons que des bons souvenirs. Tu expliques que les gameuses avec qui tu as parlé décrivent quand même avec une certaine violence le passage du primaire au collège et notamment l'injonction du groupe de filles.
Et oui, c'est là que tout se casse la gueule, entre guillemets, pour les femmes qui jouent. C'est qu'on a des récits d'enfance très dans la nostalgie, très dans le partage du temps de jeu familial, mais dès qu'on arrive dans les périodes de la préadolescence et de l'adolescence, c'est un rappel de normes de genre qui fait que quand on est une personne qui est assignée fille à la naissance, on doit avoir tel type de loisirs, on doit aimer tel type de choses et on doit traîner avec tel type de personnes. Si on le fait pas, il y a la menace qui plane d'être exclu, d'être stigmatisé, de subir des violences, hein, disons-le comme ça l'est, hein. Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les trajectoires des gamers, de me dire à un moment donné, je n'ai plus le temps de jouer aux jeux vidéo parce que c'était pas un loisir qui m'était destiné et je le faisais en cachette. J'ai beaucoup de récits de joueuses qui continuent, mais qui vont du coup aller sur des supports mobiles, hein, qui vont jouer le soir. Et là, on a l'apparition de la Game Boy, on a les premières consoles portables. Hein, elles vont plus avoir de séquences de jeux très longues où ça va se transposer sur l'été. Les vacances d'été, mais quand elles seront seules, pas avec leur groupe d'amis. On a une injonction quand même à avoir des amis filles et à partager des loisirs de filles.
Et c'est même, enfin, ce que tu expliques, c'est que c'est pas forcément, enfin, c'est en absolu, c'est la volonté de ne pas se distinguer, c'est-à-dire qu'il faut être dans les stéréotypes. C'est une période où il faut être dans les stéréotypes. Et alors, il y a une, je sais pas si ça relève d'une coïncidence ou d'un truc, c'est chez les gamers que tu as observé, il y a un passage à la lecture énormément. Enfin, elles deviennent toutes des grandes lectrices à l'adolescence, en fait. C'est assez étonnant. C'est peut-être le fait justement d'avoir perdu un loisir, de devoir compenser par autre chose. C'est assez surprenant.
Et ça qui est légitime pour le coup dans le groupe des filles. Lire, c'est OK et c'est une pratique de fille, entre guillemets, hein. Et on peut amener son livre au collège, on peut amener son livre à l'école et plus tard au lycée. Et elles vont quand même retomber sur leurs pattes dans le sens où elles vont lire les grandes œuvres de science-fiction, elles vont toujours garder ce lien avec la culture quand même geek, vidéoludique, où elles vont essayer de conjuguer un petit peu les injonctions qui se posent à elles et un amour pour cette culture-là, quoi. Elles vont toujours essayer de conjuguer les deux et d'être à cheval sur les deux. Et un peu comme Max, enfin, j'espère que dans les, bon, là, ça s'annonce mal pour la dernière saison de Stranger Things. À mon avis, Max, voilà, je vais pas spoiler les gens, mais elle a un petit peu des problèmes de vue. Mais j'espère qu'ils vont faire un rappel à un moment donné parce que pour le coup, elle a arrêté totalement de jouer. Elle a arrêté de faire du skate même. Hein. On en est là. Et ça, ouais. Et alors que c'est des pratiques qu'il faut entretenir. Et on a
Mais
ça aussi chez
exactement.
les joueuses. Dès qu'elles arrivent à l'âge adulte, elles se rendent compte que cette adolescence c'est bien pour elles aussi parce qu'il y a une diversification de pratiques. Elles vont aller vers la lecture, elles vont aller vers certains types de sports, elles vont connaître d'autres univers, mais qui font que quand elles vont rentrer et se remettre, entre guillemets, aux jeux vidéo à l'âge adulte, elles vont avoir du retard, considéré comme du retard de
Et
règles.
là, j'avoue que c'est quelque chose qui, moi, m'a étonné. Enfin, il n'y a pas que ça qui m'a étonné dans ta thèse. Y a plein de, on apprend plein de choses de toute façon. C'est que, et là, j'ai compris le re, entre parenthèses, dans le titre de ta thèse, redevenir gameuse. C'est que il y a quelque chose de très commun, en fait, qui se reproduit pour beaucoup des gameuses de ton échantillon. C'est redevenir gameuse. Encore une fois, avec une figure masculine, le premier petit ami, ou enfin, pas forcément le premier, mais le conjoint du passage à l'âge adulte, tout ça, on redevient gameuse. Je spoil un peu la suite, mais elle le reste, même si le petit ami en question se casse ou qu'elle quitte
Oui, il
le petit
change
ami.
après.
Mais il y a cette rebascule qui arrive avec le couple. Au moment où elles se mettent en couple avec quelqu'un qui joue.
Et qui est pas si étonnante que ça quand tu réfléchis aux loisirs ou même aux passions en général. Hein. Enfin, je sais pas si c'est le cas des personnes qui écoutent, mais en général, dans la sociologie, on montre que dans la conjugalité, on partage des centres d'intérêt avec son conjoint ou sa conjointe ou ses conjoints-conjointes, sinon ça marche pas. Sinon, il y a un truc qui fait que, bon, à un moment donné, le couple ne tient pas. Et pour les jeux vidéo, c'est un peu ça. Avec quand même, dans le récit des gamers que j'ai pu avoir, c'est quand même un petit peu le Graal. C'est toujours le Graal de trouver une conjointe qui va partager le temps de jeu et qui va autant aimer les jeux vidéo que soi. Surtout dans les couples hétérosexuels. Je l'ai moins sur les couples lesbiens, hein, mais il y a quand même cette volonté de revenir à du temps de jeu partagé et partager un loisir ensemble. Et se remettre à jouer aux jeux vidéo, ça fait partie de ça, quoi.
Sur les pratiques adultes, c'est le moment où effectivement les personnes avec qui tu as parlé se remettent et se mettent notamment à ces jeux hardcore dont on a parlé tout à l'heure, c'est elles se mettent à World of Warcraft à ce moment-là, certaines à Dofus, certaines mais à des jeux massivement multijoueurs, et c'est après cette migration vers League of Legends. Je précise quand même que il doit y avoir 4 ou 5 pages sur les règles de League of Legends au milieu de ta thèse.
Mais
j'étais
obligé.
Très impressionné parce que moi je serais bien incapable d'expliquer.
Chiant à faire, très chiant.
Ouais. Waouh. Et il y avait ce truc aussi quand même dans le couple, parce qu'il y a des gameuses qui sont en couple. Tu fais tout un truc sur l'équipement, avec quel PC elles jouent, avec quelle console, même quels sont les périphériques qu'elles utilisent, qui se charge de faire la maintenance informatique et ce genre de choses. Il y a plein de questions comme ça, et il y a ce truc de couple que toi tu as observé, c'est l'équipement des conjoints est largement plus performant que celui de leur compagne. Et ça, c'est toujours, enfin quasiment, je crois. Et donc, il y a quand même un truc ultra genré, même quand il y a une pratique commune.
C'est massif et c'est terrifiant à voir. C'est quand tu arrives chez un couple hétérosexuel, ils jouent tous les jeux aux jeux vidéo, et même ça va plus loin, ça va aussi dans l'espace qui est alloué à la pratique. Donc, c'est-à-dire l'agencement du bureau. Les gamers ont toujours un bureau plus grand que celui de leur conjointe, ont toujours un fauteuil plus confortable que celui de leur conjointe. Et ça, c'est quand même assez hallucinant à voir. Il y a toujours une pratique, donc celle des hommes, qui va primer sur celle des femmes. Et à la manière de ce qu'on disait tout à l'heure avec Dominique Pasquier, la chercheuse, et les vêtements anthropologiques qui se transmettent, on a aussi ce phénomène chez les couples où souvent ce sont les gamers qui vont donner, léguer hein, l'équipement qui est trop usé ou pas assez performant à leur conjointe. Mais c'est toujours vécu sous quelque chose de très positif, hein. Je dis ça, mais c'est pas vécu comme quelque chose de... Au contraire, elles sont très contentes, hein. Ça fait des économies. Mais dans le couple, c'est toujours la pratique du conjoint qui va être considérée comme plus performante, plus légitime. Et donc, c'est logique, va avoir plus d'investissements financiers, hein. C'est toujours lui qui va primer au matériel de sa conjointe, alors que le temps de jeu est équivalent. Ils jouent tous les deux de la même manière et aussi longtemps. Et même dans les couples où c'est la conjointe, parce que j'en ai eu qui gagne mieux sa vie que son conjoint, c'est quand même le budget du conjoint qui va primer sur celui de sa conjointe.
Non, mais c'est là où on se rend compte que les systèmes se reproduisent dans l'intime, évidemment. Et je rassure nos auditeurs qui pourraient se sentir visés. Je le suis aussi. Et donc, c'est pas... on fait partie de ce genre de choses, même si on peut en vouloir changer les choses. Mais voilà, c'est...
Il faudrait faire une enquête sur les couples féministes. Et ça, c'est vraiment un des fantasmes que j'ai. Je ne sais pas si je vais y arriver un jour. Hein, d'autres couples qu'hétéronormés et cisgenres. Et des gens qui sont militants et féministes. Et voir comment ça se passe chez eux. Parce que moi aussi... Il n'y a pas de breaking news, personnellement, mon conjoint est féministe, hein, est militant, hein, mais c'est toujours lui qui a un plus grand bureau que moi. Et ça m'énerve, hein, mais c'est... Même en ayant découvert ça, et en ayant théorisé ça, et en l'ayant mis en avant dans ma recherche, je me rends compte que c'est très très dur au quotidien de lutter contre
tout
cette reproduction-là. Ouais.
Je le sais, parce que des fois, il y a certains auditeurs masculins qui peuvent... Dès que les hommes se sentent visés, parfois, ils surréagissent. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. On dit pas que vous êtes des mauvaises personnes. C'est pas ça, le but.
Mais non, c'est pas ça.
Non, voilà. sur les pratiques de jeu, il y a quand même des choses qui sont très impressionnantes et où on voit que tout se diffuse encore une fois partout. Je voulais quand même faire un focus sur quelque chose qui est très connu, mais qu'il faut répéter, sur les pratiques de jeu des femmes, notamment les pratiques de jeu des femmes en ligne. Et il y a un truc qui est tellement évident, mais qui est tellement scandaleux quand on l'écrit et quand on le dit à haute voix, c'est la voix et l'écrit semblent cristalliser l'impossibilité pour les femmes de jouer avec des inconnus. Les femmes n'ont pas le droit de parler, parce que si elles parlent, elles disent que ce sont des femmes, et elles n'ont pas le droit d'écrire au féminin. Enfin, elles ne se donnent pas le droit, enfin, elles s'interdisent d'écrire au féminin pour... Il y a quelque chose que tu dis, je te donne la parole, je parle trop des fois, mais le coût du coming out en tant que femme est trop lourd.
Et
un coming
trop
out
lourd
en
et...
tant que femme.
beaucoup trop lourd et beaucoup trop chiant. Dès lors que l'identité IRL est révélée, ça peut être juste en ayant mis un E dans un chat. Hein. Ça peut aller là. Hein. J'en ai plein des exemples de gameuses qui font pas gaffe. Des fois,
Ouais.
elles ont acquis hein, ces compétences-là. Elles parlent toujours au masculin, à tel point que même à l'oral, des fois, elles parlent d'elles au masculin, tellement qu'elles sont habituées à faire ça. Et dès qu'elles font des parties random, donc avec des personnes qu'elles connaissent pas, pour entretenir leur niveau ou parce qu'il y a personne de dispo et que des fois on est obligé, hein, il y a cette pression-là de devoir faire très attention à la manière dont on écrit. Et surtout pas mettre le vocal, hein. Les femmes n'envisagent même pas de jouer en vocal avec d'autres personnes en ligne. C'est
Ouais.
même pas envisageable, en fait.
Non.
C'est même pas envisageable. Parce que, à coup sûr, on va tomber sur quelqu'un qui va poser des questions perso, qui va dire, ah, mais tu es une femme, mais what? Plein de points d'exclamation, des points d'interrogation, et qui va considérer que voilà, c'est impossible qu'il y ait une femme avec le niveau de jeu qu'elles ont qui puisse jouer avec elle, quoi. Et le perso va intervenir, qui n'a rien à faire là, en fait. Et
C'est
c'est pas le
ça,
cas pour les hommes. Hein.
elles ont en fait il y a évidemment le fait de prévenir d'éventuelles agressions sexistes, et il y a le fait aussi de pas vouloir, de vouloir jouer, juste
C'est ça.
de pas être distingué, de pas se retrouver dans l'éternel rôle, et on l'a pas utilisé jusqu'ici, mais que tu utilises dans ta thèse, le rôle d'outsider, hein, c'est-à-dire de personne en dehors, parce que à cause de son genre.
Ouais, c'est ça. Et pour la plupart du temps, c'est ça. C'est juste le fait de ne pas vouloir se distinguer et le fait de vouloir jouer comme les autres, c'est-à-dire comme un homme. Parce que les autres, c'est les hommes. Ouais, la généralité, c'est les hommes, ça reste ça. Et c'est vrai que la violence sexiste, les discriminations, elles vont intervenir et elles sont présentes même dans des cercles de confiance. Hein. C'est pas parce qu'on joue avec des personnes de confiance que ces mécanismes-là sont pas à l'œuvre. Hein. Mais ils sont en grande majorité parés par le système de réseau, la confiance qu'on peut accorder à autrui. Mais là où les gameuses ne sont pas des joueurs comme les autres, hein, c'est qu'elles doivent faire attention à tout ça avant de lancer une partie de jeu en ligne. Et elle est là la différence, ouais.
Dans les, je sais pas si ça relève d'une troisième épiphanie dans ta recherche, mais moi j'ai trouvé que c'était une donnée qui était là aussi particulièrement surprenante. Tu parles donc, t'es devenue, celle que tu as observée, c'était devenue des joueuses de League of Legends. Si nos auditrices et nos auditeurs ne connaissent pas bien League of Legends, ce sont des équipes de 5 et où chaque joueuse et joueur a un rôle en particulier, c'est-à-dire que les parties de League of Legends sont très normées. Y a un joueur qui va s'occuper de la ligne du haut, un joueur de la ligne du milieu, un joueur qui va aller dans la jungle, qui va combattre les monstres à essayer de monter de niveau. J'ai révisé, je suis très nul là-dedans. Et après, il y a la bottom lane et il y a le support. Voilà, il y a deux joueurs en bas. Et il y a ce rôle de support qui est le rôle le moins populaire et qui, comme son nom l'indique, est un rôle de support. Est-ce qu'on redirait un rôle de care? J'en sais rien, mais qui est là
Ah
aussi,
oui,
qui est là aussi
totalement.
pour s'occuper des... Mais qui est traditionnellement le rôle le moins populaire et
Oui, ouais.
toutes les joueuses de League of Legends que tu as observées sont support.
Et il n'y a même pas un truc de te dire oui, mais c'est parce que elles savaient pas trop jouer, du coup on les a mis dans des rôles là, parce que voilà, c'est un rôle facile entre guillemets, parce que c'est ça un peu la réputation de ce rôle. Non, non, hein, c'est des gameuses, hein, c'est-à-dire qu'elles jouaient beaucoup avant, hein, oui. Et elles se sont retrouvées automatiquement dans ces rôles-là.
Mais c'est, enfin, encore une fois, c'est une sorte de matérialisation statistique parce que c'est pas une erreur statistique, 100%. Des femmes de ton échantillon qui jouent à League of Legends jouent support.
Mais parce que ça s'explique aussi dans le temps de jeu, dans les parties, ce que j'ai pu observer, c'est que ce rôle-là permet aussi de faire toute la gestion du collectif de jeu, qui sont plus des équipes là, puisque c'est plus des équipes sur League of Legends, mais c'est plus des collectifs de jeu, de prendre des nouvelles de machin, de
Mais...
s'assurer que truc est bien connecté, de gérer un petit peu la rupture que machin vient de vivre et que ça affecte pas trop le temps de jeu parce que il faut monter, il faut gagner le classement, etc. Et c'est plus, voilà, ce rôle-là leur permet fatalement de faire un autre travail qui n'est pas du tout valorisé, qui n'est pas considéré comme un travail, et le travail du care, de s'occuper de leurs compagnons de jeu.
Ouais.
Dis-moi leurs compagnes, parce que dans les équipes et dans les collectifs, il y a moins de femmes, elles sont souvent la seule femme du collectif. Il y a une position aussi privilégiée par rapport à ça, d'être la seule femme dans une équipe
Bien
d'hommes.
sûr.
Mais ça va leur permettre aussi, ouais, de faire un autre travail qui n'est pas du tout valorisé, et c'est quelque chose qu'elles subissent, mais dont elles s'arrangent aussi volontiers.
Elles assument les responsabilités qui vont avec ça. Enfin, il y a une sorte de valorisation, même si statistiquement, et quand on voit ce focus sur le care de la part des joueuses, c'est quelque chose qui est finalement très genré. Enfin, c'est une activité qui va avec les stéréotypes de ce qu'est être une femme, en fait.
Et ce que j'ai montré aussi dans le, ce qui est terrible, c'est de voir que dans la conception des jeux aussi, ces activités-là ne sont pas du tout prises en compte. Et les, dans les scores qu'on va avoir en premier, on va avoir le nombre de kills. Donc, qui c'est qui a tué le plus, voilà, de personnages adverses. Et le, ce qu'elles font, elles, dans leur temps de jeu, en vrai, pendant les parties, ne va pas du tout être valorisé par le système en lui-même. C'est ça qui est, voilà, la conception des jeux reproduit, hein, ces formes de compétences et de valorisation de ce qui est légitime dans un jeu vidéo, c'est de tuer des gens.
Et
C'est pas prendre soin de
évidemment.
Kevin, quoi.
Et évidemment, inutile de préciser que quand elles jouaient à World of Warcraft, elles étaient healers.
Très majoritairement. Après, j'ai
Oui.
des outsiders quand même, hein,
Ouais.
de personnes. Je la sors toujours à cette enquêtée qui était gonflée de toujours être draguée ou de pas trouver des gens avec qui jouer, qui
Ah
racontaient
oui.
pas leur vie, etc., hein, qui a décidé d'acheter sa guilde et de se mettre uniquement elle-même dans sa guilde. Voilà, comme ça, elle était tranquille et de développer toutes ses compétences à minima pour pouvoir être autosuffisante. Je crois qu'elle jouait à Ion, il me semble. Et c'était quand même assez, voilà, elle était consciente de tout ça, et elle, sa stratégie qu'elle avait mise en place, c'est d'être autosuffisante au maximum, quoi.
On va juste passer rapidement, c'est pas rapide dans ta thèse, mais bon, hein, voilà, ta thèse, elle fait 350 pages à peu près, et donc il y avait beaucoup de choses, mais tu as fait aussi une observation, on en a parlé un peu tout à l'heure, une observation pendant les LAN parties, donc une observation de femmes à l'extérieur, avec cette statistique, hein, les femmes sont ultra, bon, on s'en doutait, mais ultra, ultra minoritaires dans les LAN parties, ce n'est que 4% des participants sont des femmes. Ce n'est évidemment pas le fruit du hasard, c'est des lieux qui sont très genrés, et où s'il y a des femmes, bizarrement, bah, ce sont elles qui se chargent de l'intendance, du bien-être des joueurs aussi, même les femmes qui sont présentes mais qui ne jouent pas, ce sont elles qui se chargent de, voilà, de l'intendance de l'organisation. La technique et les réseaux et tout ça, les ordinateurs, ce sont les hommes, et les femmes, ce sont les boissons et les cafés et les pizzas. Je
C'est
caricature,
ça.
mais c'est pas tant, en
Et
fait.
qui restent aussi à côté de leur conjoint pour les masser. Ça aussi, ça m'avait
Ouais.
frappé. Oh là là, le massage. Mais en même temps, c'est vrai que rester devant un écran, ça fait mal au cervical, hein. J'ai très mal là d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça fait mal, et un petit massage, c'est toujours bon à prendre, hein. Mais c'est vrai que ça m'avait frappé de pouvoir rester. Parce qu'il faisait froid, hein, dans les amphithéâtres, c'était des LAN qui ont été organisées dans des amphithéâtres. Rester dans le froid avec son conjoint à côté, ne pas comprendre ce qui s'est passé, parce que ça, je l'ai découvert aussi au fur et à mesure, que les conjointes souvent ne comprenaient pas le jeu. C'est même pas, je viens passer un week-end sans dormir à regarder mon conjoint parce que j'aime ce jeu-là et que j'ai envie de voir ce qui se passe à l'écran et de suivre la compétition. Et ça, je l'ai compris qu'elles comprenaient pas ce qui se passait, parce que pendant les moments de pause ou quand les parties étaient finies, elles étaient étonnées. Et souvent,
Ah
elles
oui.
disaient, ah bon, c'est terminé? Ah d'accord, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ok, d'accord, je me lève. Donc, on le voyait qu'elles étaient un petit peu en panique. Tu as gagné, tu as perdu. Ce genre de questions-là, hein, qui font que, bon, elles captaient pas. Elles arrivaient même pas à regarder le score sur l'écran. C'est
Ouais.
vraiment, il y a une méconnaissance profonde du jeu, hein. Et elles étaient difficiles à voir parce qu'elles se fondaient aussi dans le corps de leur conjoint. C'était difficile de les débunker dans la salle et de voir où elles étaient, hein. Et elles se ressemblaient aussi toutes. On a publié un article avec Johan où on montre des photos, hein, des LAN parties, et en floutant les visages, bien évidemment, pour préserver l'anonymat. Mais elles se ressemblent toutes, elles ont toutes le même type de silhouette, tout le même type d'âge, hein. Donc il doit y avoir un effet d'âge aussi, hein. Mais de toute façon, dans
Ouais.
les LAN, hein, il y a un effet d'âge, hein, qui est fatal, hein.
Forcément. Et aussi quelque chose, bah, qui est assez, qui n'est pas que dans les LAN, qui est aussi dans les chats vocaux, dans les chats des parties de League of Legends, c'est pas à peu près la même chose. voire chez certains streamers, c'est cette utilisation ordinaire de termes sexistes et homophobes, qui est majoritaire, qui est à voix haute, qui, où ils font du bruit, avec ces termes, encore une fois, ces termes sexistes et homophobes, qu'on ne va pas reciter ici, hein, mais qu'on connaît, connaît toutes et tous. Et tu expliques, il y a cette phrase que je trouve absolument dingue, « Seul un volume sonore exagéré est éventuellement dénoncé auprès de l'organisation et peut faire objet d'un rappel à l'ordre. » C'est-à-dire que ce n'est les rappels à l'ordre qui sont faits ne prennent pas en compte le propos lui-même, mais juste le volume sonore, c'est si on dérange les autres joueurs, si on crie trop, quoi.
Tout à fait. Et ce serait intéressant de voir si c'est toujours le cas avec les affaires qu'il y a eu dans le milieu du e-sport, mais j'ai pas fait d'observation de grands événements hein, qui sont retransmis, mais ce serait intéressant d'aller voir de ce côté-là. Mais c'est quelque chose qui est totalement admis et qui est peut-être un peu soufflé de temps en temps, j'imagine maintenant, mais je pense qu'il fait pas l'objet de censure.
Ouais.
Et si ça n'avait pas été moi qui aurais observé, je pense que peut-être ça ferait pas partie d'un résultat qui serait significatif. Je pense que le fait que je sois féministe, militante, et que je sois une femme, c'est des mots, c'est des termes qui moi me choquaient profondément, quoi.
On va parler de la dernière partie de ta thèse qui est, enfin voilà, qui est des sujets qu'on a suivi, enfin en tout cas moi que j'ai été amené à suivre ces dernières années, que ce soit dans Libération ou un peu dans Silence on joue, mais tu parles aussi du rapport, d'ailleurs tu restes aussi sur les gameuses que tu observes, mais du rapport à la critique du jeu vidéo lui-même, et notamment la critique féministe du jeu vidéo. Tu fais tu parles en détail des articles de Marlar et des vidéos d'Anita Sarkisian, Tropes versus Woman in Video Games. Et j'ai plus le titre de l'article de Marlar en tête, mais qui est très connu et que vous avez sans doute toutes et tous lu. C'est quelque chose qui m'a étonné aussi, mais qui se comprend, c'est que toutes les personnes de ton panel avaient eu connaissance, avaient eu l'occasion d'être confrontées à ces écrits-là, parce qu'ils avaient fait beaucoup parler, parce que c'est aussi des choses qui sont arrivées pendant ton observation. Je rappelle, c'est 2011-2018, ton observation, les articles de Marlar et notamment Anita Sarkisian, notamment le harcèlement d'Anita Sarkisian. On va rappeler qu'elle a subi un harcèlement massif au moment notamment du crowdfunding de sa série de vidéos. Donc c'était pendant ton observation, donc les personnes ont été confrontées, mais toutes n'étaient pas forcément à l'aise avec le fait de remettre en cause comme ça de la communauté des joueurs.
Mais il y a beaucoup une question d'affect, en fait, avec les gameuses. Elles ont, ce que je disais tout à l'heure, elles jouent dans un collectif, une équipe de personnes de confiance. Et c'est vrai qu'on est en 2012, l'affaire du Gamergate, l'article de Marlar qui est fleuve, qui est très détaillé. C'est difficile de contrer son argumentaire, quand même, Marlar, parce que c'est un travail de dingue qu'elle a fait. Et je la remercierai jamais assez pour ce qu'elle a fait. C'est quand même assez... Bon... C'est arrivé en plein milieu de ma thèse, c'est vrai que ça a été dur parce que je voulais absolument en parler et c'est vrai que c'était très 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 dur, puis tout le monde me parlait de ça et elle me disait « alors ça se voit sur ton terrain » et moi je voulais pas déclencher la discussion, j'attendais toujours que les gamers en parlent ou de voir si ça émergeait dans les parties et c'est vrai que la réception est très mitigée. Très mitigé, mais c'est au-delà de Marlar ou d'Anita, le travail qu'elles ont fait, c'est le féminisme en général. Devenir féministe ou déconstruire les rapports qu'on a avec les gens qu'on aime ou dans notre quotidien, le coût peut être très élevé.
Oui.
Et pour les gameuses, ça l'est, parce qu'elles jouent essentiellement avec des hommes hétérosexuels. Et il y a aussi des questions de séduction, des rapports de séduction qui sont instaurés. Et c'est vrai que pour elles, me dire frontalement qu'elles étaient d'accord avec l'argumentaire de Marlar, ça pouvait être trop élevé socialement. Le coût pouvait être trop trop dur à assumer pour elles. Il y avait aussi des femmes qui ne comprenaient pas... Il y a quand même un accès à l'écriture qui est indispensable pour lire Marlar. Ce qu'on se rend peut-être pas... On s'en rend peut-être pas compte quand on a l'habitude de lire. Mais déjà, la longueur de son article fait qu'il y a des personnes qui n'ont pas lu et qui se sont contentées de vidéos qui parlaient de ça, etc. Donc forcément, quand on a une seconde lecture, c'est moins facile de se rendre compte de la qualité de son travail. Mais oui, le coût social peut être trop élevé, de se dire d'accord avec Marlar. À l'époque, c'était pour certaines pas possible.
Oui.
C'était, pour elles, c'était critiquer leurs conjoints, c'était critiquer leurs meilleurs amis, c'était critiquer les hommes. Et alors qu'elles évoluent avec des hommes qu'elles considèrent comme très gentils, qui le sont, hein, et qui prennent soin d'elles, entre guillemets, qui ont toujours été super avec elles. Et c'était trop remettre en cause leur quotidien et leur vie, tout simplement, de femme et de la manière dont elles s'étaient construites.
Et on a l'impression qu'il y a deux choses qui mettent le ça vraiment qui sont vraiment en tension dans cette histoire quand on lit les entretiens et ce que tu racontes. C'est vrai qu'il y a d'une part, elles ont toutes vécu les épreuves dont tu parles,
Oui.
ces moments, le fait de ne pas pouvoir assumer son genre en ligne, le fait d'avoir été obligée d'arrêter le jeu vidéo à l'adolescence, enfin tout, elles ont toutes vécu les épreuves, elles ont toutes subi le sexisme de fait de l'univers du jeu vidéo. Et en même temps, il y a cette position, enfin que j'ai tendance à appeler la position victimaire des joueurs de jeux vidéo, d'une manière générale, qui est je suis passionné de jeux vidéo, mais c'est pas assez reconnu dans la société. On parle pas assez. Bref, tout ce truc de validation sociale de sa passion, où les joueurs de jeux vidéo pensent que c'est ils sont jamais assez reconnus et que c'est toujours ils sont toujours stigmatisés et ce genre de choses. Et donc en fait le fait il y a cette tension qui est ultra forte. Si je critique le jeu vidéo, je deviens contre mon camp, en fait. Je deviens traître, en fait. J'ai l'impression qu'il y a de ça.
Totalement, il y a vraiment avec la culture geek ou la culture des jeux vidéo en particulier, hein, ce fort capital émotionnel qui fait qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas critiquer, parce que c'est ce qu'on fait, hein, Marlar et Anita. D'ailleurs, elles ont prouvé qu'elles appartenaient à cette. Avec des photos, ça va loin,
Elle devait.
hein.
C'était
Elles devaient,
elles
elles
ont
étaient obligées, hein, ouais, hein. Là, l'interrogatoire était poussé à l'extrême, hein. Elles devaient prouver qu'elles savaient de quoi elles parlaient.
Elle l'avait même
C'est
devancé
ça.
l'interrogatoire, finalement. C'est
Tout
ça.
à fait. Et oui, il y a comme ce truc de on ne doit pas toucher à quelque chose qui est transcendantal, qui est tout pour nous, qui est notre passion, et la critiquer viendrait l'abîmer ou viendrait la pervertir, alors que c'est pas ça en fait que demandent les femmes ou les gameuses qui sont féministes et qui ont cet argumentaire-là. C'est juste simplement on est là. Et laissez-nous être là de manière sereine et apaisée. Et on aime les jeux vidéo autant que vous, en fait. C'est pas ça la question, quoi.
Je voulais finir avec toi sur donc déjà tu as passé ta thèse il y a pas longtemps hein, c'était donc en septembre 2019, c'était il y a un peu plus de 3 ans toi comment justement dans tes observations comment est-ce que tu as vu déjà quelque chose s'améliorer ou pas, ou il y a des choses dans la représentation des femmes à l'intérieur des jeux, et en même temps on a encore vu il y a quelques semaines à peine des systèmes de harcèlement systémique de streameuses qui continuent, qui sont là encore et encore d'exclusion, de gatekeeping, c'est-à-dire de considérer que les femmes sont pas assez compétentes, enfin tout ce qu'on vient de dire, sont pas assez compétentes, sont pas assez validées pour rentrer dans le petit cercle des gamers. Est-ce que tu vois un frémissement ou quelque chose, peut-être un discours féministe peut-être plus assumé, qui arrive plus à se diffuser? Comment est-ce que tu vois ce qui se passe ces dernières années autour du jeu vidéo? Je ne te demande pas d'être optimiste, hein, loin de là,
Non,
mais
ben, tu te
c'est...
doutes que je vais pas la transmettre à mon grand désarroi, hein.
Non, oui.
Et c'est toujours les questions qu'on me pose souvent par des journalistes de relever l'évolution et d'apporter quelque chose d'un peu positif. Et je pense que c'est encore trop tôt. Malheureusement, je suis sociologue, hein, donc les évolutions, tu les vois plus sur 10 ans, 20 ans. Je serai morte, hein, sûrement, hein, quand il y aura vraiment des petits changements qui vont arriver. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé la recette de la vie éternelle. Il faut que je me penche là-dessus, hein. Mais il y a des petites évolutions, je suis d'accord. Ne serait-ce qu'au niveau des représentations. Évidemment, ne serait-ce qu'avec les jeux indés. Voilà. Les jeux indés ouvrent quand même un monde assez hallucinant. Mais il faut se poser quand même la question de qui fabrique les jeux. C'est toujours pareil. qui fabrique les jeux, qui a les compétences pour le faire, qui sait qui se sent de faire une carrière de développeur de jeux vidéo, ben encore à l'heure actuelle, les femmes ne vont pas se lancer dans des secteurs qui sont trop risqués pour elles, où elles vont subir du sexisme, où elles vont pas être payées comme des hommes, et où ben ce sont des travaux du travail précaire, hein. C'est Vincent Zabon, hein, qui avait travaillé là-dessus. C'est des carrières super précaires, de développer des jeux vidéo, puis c'est un travail. Avoir une vie de famille ou avoir une vie simplement quand on est développeur de jeux vidéo, j'ai l'impression que c'est pas possible. Donc c'est là on retrouve pas des femmes et on retrouve en moins, encore moins des minorités de genre. Parce qu'il y a aussi la question des femmes, il y a la question des minorités de genre. Et là, pour le coup, je vois très peu d'évolution, mais au niveau des jeux qui sont les plus joués. Parce qu'il y a toujours les jeux indés, il y a toujours des pépites, il y a toujours des jeux qui te font dire, bon, il y a Life is Strange, voilà, ouais, tout ce que j'ai dit, ça ne compte pas parce qu'il y a Life is Strange. Mais ouais, mais voilà, quand même, la majorité de l'offre, hein, reproduit toujours les mêmes rôles, met toujours les mêmes femmes dans les po mêmes positions. Et puis, il y a toujours la section girl game dans les magasins de jeux vidéo. Donc pour moi, je suis assez pessimiste dans le fait que ça va se reproduire et ça va, mais plus généralement, si on sort du jeu vidéo, c'est un lien avec tous les métiers techniques, technologiques, qui font que les femmes n'ont pas, ou les minorités de genre ne peuvent pas proposer d'autres types de récits, d'autres types d'aventures, ils ne peuvent pas, avoir ce rôle d'inventivité qui pourrait permettre de faire bouger les choses.
On est arrivé au bout, je crois.
Ouais.
Non, je sais pas. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter?
Mais plus que tu disais tout à l'heure, j'ai des hommes qui vont rager sur les résultats ou dire que moi, avec ma conjointe, promis, je fais pas comme ça, elle a le meilleur écran. Ma recherche, elle est située. Toutes les recherches en sociologie ou même peu importe la discipline sont situées. Tu disais tout
Bien
à l'heure,
sûr.
j'ai un point de vue situé. Tout le monde a un point de vue situé, en fait. Voilà. Si je dois appuyer quelque chose, c'est que même si j'ai fait une recherche au sein d'une université, j'ai fait une thèse de doctorat, maintenant je suis sociologue, je suis qui je suis. Donc forcément, mes recherches me ressemblent et sont en lien avec où j'habite, mon histoire, qui j'ai rencontré, ma direction, etc. Donc forcément, ce que j'ai trouvé n'est peut-être pas, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Et mes résultats ne sont pas représentatifs de l'ensemble des femmes qui jouent, bien évidemment.
Non.
Il faudrait faire d'autres types de recherches. Et là où je suis un peu, où j'ai un petit peu d'espoir, c'est que voilà, la prise de parole pour les femmes, elle est là, quand même. Il y a eu le Gamergate et les femmes maintenant dénoncent des comportements qui n'étaient pas dénoncés avant. Donc on est toujours sur la streameuse qui va avancer. Ça m'a fait beaucoup sourire quand j'ai écouté le dernier numéro que tu as fait avec la streameuse. Il n'y a pas longtemps, je sais plus
Ultia.
son pseudo, Ultia, voilà.
Oui.
Qui avance tout le long de l'entretien, hein, des références très précises. Enfin, on voit vraiment de quoi hein, elle sait, elle est spécialiste hein, de, mais elle peut-être trop à l'extrême d'avancer vraiment plein de titres de jeux vidéo. Faudrait peut-être le comparer avec un autre podcast d'un joueur s'il fait la même chose aussi peut-être. Mais voilà, là pour moi, rien qu'avec ce type de personnes-là, de femmes-là, les choses avancent parce qu'elles étaient moins visibilisées avant. Maintenant, on peut peut-être gagner sa vie en faisant ça. Ok, il y en a toujours qui vont jouer avec des décolletés, mais si elles ont plus de sous en jouant avec des décolletés, laissons-les faire, en fait. C'est juste une stratégie marketing et
Bah
c'est
oui.
pas pour ça qu'elles vont détruire le féminisme et que c'est de mauvaises femmes et de mauvaises féministes. Au contraire, c'est qu'elles ont compris comment ça fonctionnait. Donc elles sont plus intelligentes que les autres, pour moi. Et parce que pareil, il y a toujours des journalistes qui me contactent par rapport à machin qui a montré son décolleté ou truc qui vend l'eau de son bain. Mais si elle veut faire, laissez-la faire en fait. Si elle gagne sa vie avec ça, laissons-la faire et elle a bien raison de le faire. Donc oui, il y a des avancées, il y a du positif parce que les femmes sont de plus en plus visibles et j'ai l'impression qu'on les écoute pas comme on devrait les écouter, mais qu'on les écoute de plus en plus.
En tout cas, bah, merci. Merci beaucoup, Jessica. Et puis, bah, on va suivre forcément. Il y aura d'autres recherches, il y aura d'autres articles qui arriveront.
Oui.
J'espère aussi que bah, les travaux, ces travaux, parce que tu as été la première aussi à faire ça sur les femmes et le jeu vidéo, ça mérite, je pense, d'autres sujets de recherche. Je pense qu'il y en aura, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et on va suivre ça. Merci beaucoup.
Ben merci à toi. Merci beaucoup.